France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Nous poursuivons la série de cette semaine consacrée à la notion d'engagement. Aujourd'hui, le philosophe allemand Theodor Adorno critique de l'engagement tel que Sartre l'envisage. Jean-Paul Sartre, après la Seconde Guerre mondiale, s'est imposé comme une figure intellectuelle majeure, rayonnant bien au-delà de la France et touchant une jeunesse qui voulait ouvrir un monde nouveau, loin peut-être des compromissions politiques de certains de leurs parents. Et Sartre a affirmé avec force que l'engagement, y compris en art, la capacité à choisir son camp, était une évidence, sans quoi, par le suspens, par l'écart, voire par une certaine obscurité des œuvres étranges, on était en réalité embarqué, comme il disait, du côté des dominants. L'aura de Sartre était si grande qu'en 1962, le philosophe allemand Theodor Adorno a écrit un texte critique de cette vision des choses, un texte précisément intitulé « Engagement ». Là, Adorno défend les œuvres d'art autonomes, difficiles à classer trop vite, donnant à réfléchir. Adorno refuse les injonctions à l'action qui parfois, dit-il, interdisent de penser. Je le cite, assumant quelque chose pour l'art qui évoque un peu, me semble-t-il, l'inquiétante étrangeté de Freud, Adorno déclare, je cite, « L'écrivain est soumis à une obligation qui est celle de la chose et non celle du choix, c'est-à-dire celle des contradictions douloureuses de la chose, de la réalité et du désir d'ouvrir en elle une voie utopique en évitant certaines des facilités qui sont le risque des discours rapides sur l'engagement. Ainsi seulement, dit Adorno, peut-on créer un art véritablement critique ?» Et nous verrons aussi, bien sûr, que la critique de Sartre par Adorno est subtile et n'est pas du tout une manière de le fustiger définitivement. Pour en parler, bienvenue Michel Cohen-Halimi, bonjour.
Bonjour Géraldine Mühlmann.
Vous êtes professeur de philosophie à l'Université Paris 8, spécialiste de philosophie allemande moderne et contemporaine. Vous connaissez très bien Adorno et ses compagnons de l'école de Francfort première génération, Herbert Marcuse, Max Horkheimer, Krakauer, dans une tonalité proche, quoi qu'il soit un peu plus loin, Walter Benjamin, et d'autres encore qui forment ce qu'on appelle aussi la théorie critique. Cette théorie critique est la figure majeure d'Adorno en son sein. Vous êtes vous aussi un grand connaisseur de tout cela, Gilles Moutot, bonjour.
Bonjour Géraldine, bonjour Michel.
Vous êtes maître de conférence en philosophie à l'Université de Montpellier. Je renvoie les auditeurs vers notre site pour retrouver la liste de vos publications sur Adorno. À vous Gilles Moutot et à vous Michel Cohen-Halimi. Pour commencer cette discussion sur Adorno versus Sartre et creuser avec soin et je l'espère, j'en suis sûre, subtilité la position d'Adorno, commençons par une archive de Sartre en 1946.
Il n'y a pas de littérature innocente. De même que Saint-Just disait, on ne gouverne pas innocemment, il faut dire, on ne parle pas, on n'écrit pas innocemment. Et il y a une responsabilité de l'écrivain dans le fait qu'il a maintenu trop longtemps, plus qu'il ne pouvait, la position de l'art pour l'art. Aujourd'hui, la situation est tout à fait différente. Parce que, d'abord, il y a écroulement de l'irresponsabilité et de l'art pour l'art. L'occupation, par exemple, a montré à beaucoup de gens que, précisément, la littérature, aujourd'hui, est liée à la démocratie. Si vous ne pouvez pas écrire librement en vous adressant à des hommes libres, alors vous ne pouvez plus écrire. L'exemple de Drieu, comme aussi bien l'exemple des écrivains résistants, vous montre que la littérature est à ce point liée à la démocratie que non seulement il faut qu'elle la défende, mais que quand la démocratie est attaquée par les armes, on défend aussi par les armes la littérature.
Défendre par les armes la littérature, l'image du pistolet que Adorno va reprendre pour la refuser. Est-ce qu'on pourrait peut-être remettre ces propos de Sartre, Michel Cohen-Halimi, dans l'ambiance d'abord française de la fin de la Seconde Guerre mondiale de même que nous replongerons Adorno dans l'ambiance allemande des lendemains de la Seconde Guerre mondiale. Sans quoi on comprend mal. Je sais que vous le pensez.
Oui, oui, je pense qu'il faut sans doute commencer par un ensemble de distinctions ou de différences entre les deux situations historico-politiques. Il n'en demeure pas moins que, de manière assez, disons, étonnante et convergente, les écrivains après la fin de la Seconde Guerre mondiale, aussi bien en Allemagne qu'en France, les intellectuels, les penseurs comme Sartre, s'interrogent sur le rôle de la littérature, le rôle politique de la littérature dans l'après-guerre. Donc, qu'est-ce que la littérature ? C'est quand même un ensemble de textes que par lesquels Sartre a ouvert la publication des temps modernes, par une série de livraisons successives.
D'ailleurs, je pense en entendre un extrait, mais puisqu'on parle du contexte, si vous le voulez bien, bon, il est évident que Sartre veut aider la France à sortir de quelque chose qui a aussi été assez obscur pour elle. Je parle de certaines compromissions avec l'occupant nazi. Quelle est la situation en Allemagne ? Adorno rentre des États-Unis. Juste racontez-nous cela et pourquoi la situation d'Adorno n'est pas comparable à celle de Sartre.
Alors Adorno s'est exilé aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, assez tardivement d'ailleurs, 37-38. Il est d'abord parti dans un premier temps à Oxford, au Merton College. Et il reste donc aux États-Unis, à New York d'abord, et puis en 41, l'école de Francfort, enfin l'institut est en suspens. Et ils partent tous en Californie, où ils conduisent un travail très important sur les préjugés antisémites et racistes. Donc un travail collectif d'ampleur qui mobilise tout un groupe de chercheurs, sociologues, philosophes, économistes, psychologues, et qui étudie, interroge pas moins de 2000 citoyens américains et qui tente de cerner dans le fond ce que ça peut être qu'un potentiel fasciste, c'est-à-dire de quelle manière, dans le fond, l'idéologie fasciste peut être rendue acceptable. Donc il y a tout ce travail collectif qui est conduit pendant la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis, en Californie, et puis il y a le travail qui va donner lieu à un livre en 1947, publié à Amsterdam, aux éditions Querido, qui est « La dialectique de la raison », co-écrite par Adorno et Horkheimer. Et donc après tout ce travail conduit pendant la Seconde Guerre mondiale et qui est quand même une réflexion d'ampleur sur ce qui arrive, oui. Et dans une situation où les États-Unis, face aux États autoritaires, totalitaires de l'Europe, offrent dans le fond un monde consumériste, de consommation de masse, avec une absorption de toutes les oppositions par des biais de marchandisation, de communication, etc., qui leur donne aussi l'occasion de réfléchir à ce que c'est que cette démocratie américaine. Donc le retour en Allemagne est un retour d'abord dont je voudrais dire qu'il n'a rien d'évident. Adorno rentre en octobre 49.
Il avait la nationalité américaine.
Il faut dire aussi qu'il va mettre beaucoup de temps à obtenir un poste de professeur et que pendant tout un temps, il pense se rabattre sur la France face à la possibilité d'une vague néo-fasciste en Allemagne.
Oui, d'autant que l'administration, l'épuration des nazis n'a pas été parfaite.
Il n'y a pas eu tout de dénazification. Ouais. Non seulement il n'y a pas de dénazification, ou le peu qu'il y a de dénazification est suspendu par Adenauer, le chancelier chrétien-démocrate, en 51. Amnistie, près de 800 000 personnes amnistiées, dont 3 000 Waffen-SS et SA. Ça, c'est quand même l'Allemagne. On sait aussi qu'en 67, Beat Klarsfeld va administrer une gifle au chancelier chrétien-démocrate encore Kissinger, qui était nazi. Donc, je veux dire, l'Allemagne de l'après-guerre, elle n'est pas dénazifiée et Adorno met beaucoup de temps à obtenir un poste de professeur que certains de ses collègues lui diront avoir été accordé par réparation et non pas pour ses qualités scientifiques. Donc la solitude d'Adorno
est importante. Ça n'a rien à voir avec Sartre qui très vite touche la jeunesse, une jeunesse qui a envie de passer à autre chose en France. Adorno, il a du mal à rentrer. Franchement, je pense qu'on peut dire que dans les cerveaux allemands des générations ultérieures, la dénazification quand même va bien se faire. C'est un peuple qui a pas mal réfléchi à son histoire. Je peux même comparer avec la France.
Bon, c'est à partir de Willy Brandt. Hein,
Bien plus tard, 69. Et c'est bien plus tard. Et à ce moment-là, Adorno ne sera pas non plus, si j'ose dire, l'idole des jeunes. Pourquoi ? Parce qu'en 68, qu'est-ce qui va se passer, Gilles Moutot ? Qui est Adorno pour la jeunesse, cette fois-ci non pas de la fin des années 40, mais de la fin des années 60 ?
Disons qu'à la fin des années 60, il a quand même marqué les étudiants par son enseignement, hein, évidemment.
Oui.
Et je ne sais pas si on parle tout de suite de ça, effectivement. Mais
plantons le décor.
Ouais,
parce que,
disons qu'en 68-69, il est à la fois très attentif au mouvement des étudiants, aux protestations, et il est critiqué par un certain nombre d'étudiants.
Pour insuffisante radicalité. Qui
lui reproche de ne pas être assez radical et de pas soutenir. D'ailleurs, il le dit au début du texte résignation. C'est-à-dire, on nous reproche même de pas soutenir des actions spectaculaires et violentes.
Voilà. Résignation, un texte de 1968.
Et donc, au fond, le reproche auquel il est alors exposé, c'est qu'on lui reprocherait on considère qu'il ne veut pas tirer les conséquences pratiques, hein, de la théorie critique de la société
qu'il incarne, et qu'il leur a
enseigné entre guillemets.
Marcus, qui est de la même génération et de la même mouvance, peut-être qu'on reconstruit après coup, souvent, son importance dans les mouvements de 68. Bon, il est plus facilement associé,
oui.
C'est vrai, mais il est aussi aux États-Unis, en tout cas, il y a beaucoup sur les campus, il y a quand même un lien parfois plus fort, me semble-t-il, à Marcus, oui, qu'à Adorno, si je ne me trompe pas, même si Marcus, je me trompe là-dessus.
Non, mais il est aussi très présent à Berlin,
voilà,
pendant toute cette période de grande effervescence, ouais. Il est professeur associé à Francfort,
oui.
Il envoie Angela Davis
suivre les cours d'Adorno.
Il
y a plus un lien avec l'Amérique naturelle.
Black Power vient d'être fondé en 66. Voilà. Donc, il a quand même, Marcus, il est vraiment alors celui qui fait le plus la navette entre Berkeley et Francfort.
Voilà. Mais, attends, je sais pas, mais peut-être qu'on peut le dire dès maintenant, mais j'étais assez... vous nous avez fait travailler, hein, avant, et bon, c'est des choses qui nous remuent aussi. Je pense qu'on travaille pas sur la théorie critique, sur Adorno, et sur Sartre aussi, d'ailleurs, enfin, qui a été ma première amour philosophique, j'en parlais avec Michel tout à l'heure, quand je lisais la biographie d'Annie Cohen-Solal, qui sortait quand j'étais en terminale, voilà. Marcus, il est plus associé au mouvement comme l'ayant davantage soutenu, mais je crois qu'il partage quand même avec Adorno cette idée que la théorie n'a rien pour sauter à pieds joints dans un futur parfait, quoi. À la fin de l'homme unidimensionnel, il y a ces phrases qui sont très très belles quand même. Il dit « La théorie critique de la société ne possède pas de concepts qui permettent de franchir l'écart entre le présent et le futur. Elle ne fait pas de promesses. » Et c'est ainsi qu'elle reste fidèle à ceux qui, sans espoir, ont donné et donnent leur vie au refus de cette société telle qu'elle est. Et il termine avec cette phrase très belle de Benjamin, hein, qui est « C'est au nom des désespérés que l'espoir nous fut donné ». Voilà. Faire croire qu'on a la clé du grand soir, là, de tout de suite, et que ça justifie absolument toute action, et que ça justifie d'inféoder la théorie, la réflexion théorique conséquente, on en parlait avec Michel, c'est ça qui pose problème à Adorno, mais aussi à Marcus quand même.
Alors, dès 47-48, de son côté, Sartre, qui quand même va un peu perdre pied, plus qu'on l'a dit en 68, hein, il n'est pas au cœur de l'histoire, hein, en France. Mais il est vrai que dans la mémoire collective, il n'a pas été disqualifié par ce mouvement. Il y a quelque chose qui fait que Sartre reste connecté à l'idée d'un engagement franc qu'il aurait énoncé, y compris pour les artistes, dès le texte de 1947, La littérature, qu'est-ce que la littérature, dont je vous propose un extrait aussi pour sa clarté, sa fermeté. Adorno est toujours plus complexe, plus subtil, mais peut-être, diront certains, plus profond. Écoutons Sartre d'abord.
Si tout homme est embarqué, cela ne veut point dire qu'il en ait pleine conscience. La plupart passent leur temps à se dissimuler leur engagement. Cela ne signifie pas nécessairement qu'ils tentent des évasions dans le mensonge, les paradis artificiels ou la vie imaginaire. Il leur suffit d'obscurcir leur lanterne, de voir les tenants sans les aboutissants ou l'inverse, d'assumer la fin en passant les moyens sous silence, de refuser la solidarité avec leurs pareils, de se réfugier dans l'esprit de sérieux, d'ôter à la vie toute valeur en la considérant du point de vue de la mort, et en même temps toute horreur à la mort en la fuyant dans la banalité de la vie quotidienne. De se persuader, s'ils sont d'une classe d'oppresseurs, qu'on échappe à sa classe par la grandeur des sentiments, et s'ils sont parmi les opprimés, de se dissimuler leur complicité avec les oppresseurs en soutenant qu'on peut rester libre dans les chaînes si l'on a du goût pour la vie intérieure. À tout cela, les écrivains peuvent avoir recours comme les autres. Il y en a, et c'est le plus grand nombre, qui fournissent tout un arsenal de ruses au lecteur qui veut dormir tranquille. Je dirais qu'un écrivain est engagé lorsqu'il tâche à prendre la conscience la plus lucide et la plus entière d'être embarqué, c'est-à-dire lorsqu'il fait passer pour lui et pour les autres l'engagement de la spontanéité immédiate au réfléchi.
Donc, et là je me réponds à moi-même et à tous ceux qui pourraient me faire des objections, ce texte, en vérité, quand on le lit, a plein de subtilités. Il y a une référence à la vie quotidienne qui engage certainement un rapport à Heidegger et à ce régime du « on », comme disait Heidegger, dans lequel nous vivons quotidiennement. Le texte est de certes est très riche, Michel Cohen-Halimi. Il oppose oppresseurs et opprimés, cependant. Mais surtout, et c'est ça qui va fâcher le plus Adorno, il suggère que l'art doit choisir son camp entre ces deux-là. Et ça, c'est quand même net dans le texte.
Oui, en effet. Ce qui est très net aussi, c'est en effet ce choix. Donc, il y a chez Adorno, de ce point de vue-là, un certain défi pour le goût de tout ce lexique du choix, de la décision, de l'arbitre, même si ces décisions, ces choix sont toujours en situation. Mais je crois que pour Adorno, il faut penser de manière beaucoup plus dialectique. C'est-à-dire que dans le fond, la liberté, elle procède d'une analyse très serrée des tendances objectives du monde réel. Donc dire qu'on choisit en situation est dans le fond une manière de poser les choses et les termes du problème qui, je crois, pour quelqu'un comme Adorno, manifeste un déficit dialectique.
Alors dialectique, ça veut dire que avant de trouver la position, on va employer un mot d'Adorno, de résistance,
oui,
aux oppressions. Il ne faut pas immédiatement croire que ça se gagne comme ça. Du côté, voilà, on se met chez les oppresseurs et puis c'est bon, chez les opprimés, pardon. Et puis tout ça est très clair. Il y a des sujets oppresseurs. C'est pas comme ça que ça marche.
Bien sûr, mais on voit bien aussi qu'il y a un primat de la conscience, là. Il y a un primat de la conscience.
Chez Adorno, il y a un primat, comme vous l'avez dit, un primat de la chose, ce qu'il appelle un primat de l'objet, Adorno. C'est la situation historique et sociale dans laquelle on est pris. Mais on est pris, ça veut dire, c'est très fort. C'est-à-dire que l'objet, il passe dans le sujet aussi. C'est ça qui est, j'ai beaucoup repensé justement avant de venir, je me disais, est-ce qu'on peut rapprocher le concept de situation et celui de primat de l'objet? Oui, sauf que le concept de situation reste un concept très, très, très idéaliste chez Sartre. C'est-à-dire, il y a la situation, mais les capacités du sujet à faire ses choix, à décider
restent
intactes. On parlait tout à l'heure des études sur la personnalité autoritaire, sur le potentiel fasciste, les préjugés dans la fasciste dans la société américaine. C'est quand même assez gonflé aussi cette étude. Les États-Unis viennent de triompher du nazisme, ils font une étude en montrant qu'il y a un potentiel, c'est les grands héros.
Autoritaire.
Hein, à la fin de la guerre, et Adorno et toute son équipe montre que le préjugé, c'est quelque chose de très fort, quoi. Que justement ça s'inscrit dans les manières de réfléchir à une situation et de prendre ses décisions.
Ça nous fait du bien de dire ça.
Et que donc il y a alors que au fond chez Sartre, vous l'avez dit un peu hier d'ailleurs, la figure du sujet chez Sartre reste quand même très cartésienne, quoi. Malgré tout, quoi. Une forme quand même là de subjectivisme qui finalement ne peut pas convenir à Adorno. Dans la dialectique de la raison, justement, dont on parlait tout à l'heure, il y a cette phrase très importante. Ils disent si on veut vraiment essayer de lutter contre les logiques de domination et d'oppression dans les sociétés actuelles, il faut arriver à comprendre que la domination s'est inscrite dans la pensée elle-même. Voilà. dans la pensée elle-même.
C'est-à-dire qu'on ne sort pas immédiatement de l'oppression en le voulant. Quoi.
Chez Sartre, non. En tout cas, dans la critique de la raison dialectique, il va se faire atteler à ce problème. Mais en tout cas, il part d'une position philosophique qui lui rend plus difficile ce jeu dialectique que fait Adorno, je pense.
Au début de ce texte Engagement de 1962, Adorno dit même qu'il en a un peu assez dans certains maniements de l'idée d'engagement. Ce n'est pas une accusation d'emblée directe envers ça. Il en a un peu assez qu'on dénonce des intellos un peu obscurs. Et il dit même, un certain art, je cite, « contre-nature, hyper-intellectuel, malsain, décadent ». Il ne dit pas que c'est le retour des années 30 contre l'art dégénéré. Il fait attention, c'est pas la même chose. Mais il reste quelque chose comme une hostilité à l'égard des œuvres qui n'ont pas la clarté des œuvres immédiatement engagées. Et ce sont précisément ces œuvres-là qu'il va défendre comme pensant peut-être plus profondément nos contradictions. C'est intéressant qu'il en ce moment, je trouve aussi, personnellement, qu'il critique l'anti-intellectualisme qui l'inquiète.
Oui, Michel Cohen. Ça, je pense que c'est très important, parce que pour revenir juste un instant sur ce déficit dialectique que pointe Adorno dans la pensée de Sartre relativement à la question de l'engagement ou de l'implication du penseur dans le réel, dans l'action, il y a en fait un préjugé second qui est enveloppé, qui est, dans le fond, qu'on reconduit la division sociale. C'est-à-dire qu'il y en a qui pensent et il y en a qui agissent.
Et
ceux qui pensent, et puis on va continuer avec un préjugé anti-intellectualiste, qui ne font que parler, qui font du blabla et qui ne produisent rien. Hein, ça, Adorno a déjà rencontré ça avec les TUI de Brecht, qui avait caricaturé les intellectuels en les nommant les TUI. Donc il y a le roman des TUI. Les TUI, c'est les grosses têtes, pour faire bref, qui ont une sorte de déformation professionnelle qui s'emploie à complexifier le réel pour ne pas agir ou sans agir. Voilà. Donc c'est tous ceux qui, pour Brecht, ont été contemporains de l'effondrement de la République de Weimar sans rien faire.
Donc l'injonction à s'engager, peut-être à l'insu de ceux qui la manient, peut avoir ce petit ressort
anti-intellectualiste. Et surtout la division du travail, la division sociale du travail. Ceux qui pensent et ceux qui agissent. Alors ça, pour Adorno, c'est pas acceptable.
Et puis c'est une mauvaise lecture de Marx. Il le cite immédiatement, la 11e thèse sur Feuerbach, où Marx dit « Les philosophes ont longtemps interprété le monde, il est temps de le transformer. » Adorno en a marre qu'on surutilise cette phrase. Et d'ailleurs, il dit que probablement, c'est pas le tout, pas du tout le tout de la pensée de Marx. Vous êtes d'accord, Michel?
Absolument. Et ce qui est très important, c'est que quand il prend sa chaire de philosophe en 1931 à Francfort, parce qu'il va quand même, Adorno, enseigner un an et demi avant d'être chassé de l'université par les nazis, il cite cette phrase de Feuerbach. Et il dit de Marx sur Feuerbach, et il substitue à interpréter, interprétir, qui est le verbe de Marx, il substitue deuten au sens de Freud. C'est-à-dire que dans le fond, tout notre travail à venir, et la conférence s'intitule l'actualité de la philosophie dans une situation qu'il diagnostique comme étant celle de la liquidation de la philosophie, notre travail de philosophe, c'est d'interpréter, et interpréter, ça veut dire résoudre les problèmes en les dissolvant. Et quand on les dissout, ça veut dire qu'on n'ajoute pas des réponses à toutes les réponses. Ça veut dire qu'en fait, on est transformé par cette dissolution même. Donc le rapport sujet-objet est transformé. Et là, il y a un potentiel utopique.
Donc l'art ne transforme pas le monde directement, mais il nous transforme, nous, face au monde, c'est ça ?
C'est ce que disait Gilles tout à l'heure.
Alors Gilles va continuer, c'est une idée très importante, me semble-t-il.
Peut-être, je ne sais pas, là aussi, si on revient sur l'art, mais je veux bien d'ailleurs, parce que du coup j'y pensais en écoutant Michel, en reprenant qu'est-ce que la littérature, tombé sur ce passage-là de Sartre à propos du Tintoret, où il dit, bon, alors, le jaune dans la crucifixion, le ciel, la déchirure, déchirure jaune au-dessus de la tête du Christ, elle ne signifie pas l'angoisse. Là-dessus, d'ailleurs, Adorno pourrait être d'accord. Hein. C'est pas un simple petit symbole comme ça. Elle est l'angoisse, quoi. Ce ciel jaune, c'est l'angoisse. Et puis il ajoute, mais elle ne provoque pas l'angoisse non plus. C'est pas fait pour provoquer l'angoisse. Et c'est là, je pense qu'il y a une divergence. C'est-à-dire que quand Adorno défend une œuvre comme celle de Beckett, par exemple, il dit Beckett provoque l'angoisse. Voilà. Là, il va chercher le sujet, quoi. Quand il parle de Kafka dans un texte qui est dans Prisme, il dit la caractéristique des textes de Kafka, c'est que le rapport au lecteur est profondément perturbé. Ce qu'il redit d'ailleurs aussi dans le texte en engagement, il dit quand on a été pris dans la machine de Kafka, on peut plus être en paix avec le monde. Voilà.
Et il pense que là,
ça passe par une forme aussi d'hermétisme, sans doute. Enfin, en tout cas, évidemment, c'est les paraboles de Kafka qui sont tellement énigmatiques. Hein. Justement, là aussi, on ne trouve pas la réponse tout de suite. Et ça vient faire quelque chose au lecteur. Ça vient perturber, et d'une certaine façon, tu parlais de Brecht tout à l'heure, d'une autre manière, la réflexion de Brecht sur le théâtre, elle cherche aussi à provoquer quelque chose chez le spectateur.
Je lis Adorno.
C'est très différent de celui de Sartre.
Quoi. Et vous allez continuer à le commenter. Donc, dans Engagement en 1962, Adorno écrit « L'art ne consiste pas à mettre en avant des alternatives, mais à résister par la forme et rien d'autre contre le cours du monde qui continue de menacer les hommes comme un pistolet appuyé contre leur poitrine. Mais dès que les œuvres d'art engagées veulent susciter des choix et en font leurs critères propres, elles deviennent interchangeables. » Critique de l'engagement qui va se poursuivre dans ce texte en parlant immédiatement de Sartre. Écoutez.
Les pièces de Sartre sont les véhicules de ce que l'auteur veut dire, en retard sur l'évolution des formes esthétiques. Cependant, l'illustration, ou selon le cas l'énoncé des thèses, se sert de l'émotion, dont l'expression est le ressort de la dramaturgie sartrienne, comme d'un exemple, discréditant ainsi ses thèses elles-mêmes. La scène finale de l'une de ses pièces la plus célèbre contient la phrase « L'enfer, c'est les autres ». On dirait une citation extraite de L'être et le néant. Du reste, on pourrait dire aussi bien « L'enfer, c'est nous-mêmes ». Grâce à une intrigue solidement ficelée, alliée à une idée non moins solide, bien assimilable, Sartre a connu un très grand succès et a pu se faire accepter ainsi par l'industrie culturelle, très certainement contre sa volonté d'homme intègre. Le haut niveau d'abstraction de la pièce à thèse l'a amené à situer quelques-uns de ses meilleurs ouvrages, comme le scénario du film « Les jeux sont faits » ou sa pièce « Les mains sales », dans le milieu des dirigeants politiques, et non parmi les victimes obscures. Mais c'est bien de la même manière que l'idéologie courante, que Sartre haïssait pourtant, prenait les actions et les peines de ces stéréotypes du chef pour de l'histoire objective. Remettre la décision à des hommes qui disposent du pouvoir et non à la machine anonyme, affirmer qu'il y a encore de la vie dans les hautes sphères sociales du commandement, c'est apporter sa pierre à l'édifice mystificateur de la personnalisation. Les personnages à moitié crevés de Beckett en disent long là-dessus. L'entreprise de Sartre l'empêche de reconnaître l'enfer contre lequel il se révolte.
France Culture, avec philosophie. Géraldine Mühlmann.
Nous parlons cette semaine de la notion d'engagement. Et ce matin, après avoir évoqué, je crois, avec honnêteté, je l'espère, la notion d'engagement chez Sartre, voici la critique que lui adresse Adorno, critique qui peut paraître étonnante, mais qui est très argumentée. Et après la lecture de ce texte d'Adorno, extrait de « Engagement », un texte de 1962, nous comprenons peut-être mieux ce qu'il veut dire. Je vous laisse commenter, comme vous le souhaitez, Gilles Moutot.
Oui, tu me méfies avant de proposer qu'on parle de ce texte, bon, qui est quand même assez dur, c'est vrai. Mais non, je pense qu'il y a l'idée qu'il y a une contradiction chez Sartre entre son discours autour de la liberté et la forme artistique de l'œuvre engagée, quoi. C'est-à-dire que la liberté est une sorte de signification introduite de l'extérieur, voilà. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a une forme tracée d'avance de l'alternative. Donc on est en situation d'oppression, de non-liberté, mais nous sommes libres de faire des choix. Et donc cette idée de la liberté, c'est ça qui m'intéresse aussi dans ce texte. Il dit c'est pas la sincérité de Sartre qui est en cause. Bien sûr qu'il déteste les puissants qui pensent diriger le monde, mais le problème, c'est que sa pièce, pour communiquer très rapidement une idée, elle s'appuie sur une idée du sujet qui est précisément celle-ci. Qui est complètement hypertrophié chez ceux, alors là aussi qui est quand même une très grande, une sorte d'actualité pour aujourd'hui, quoi, chez ceux qui pensent être les maîtres du monde, mais son idée du sujet, c'est celle-là, finalement. C'est ça qui lui reproche en disant, on prend les actions et les peines des individus qui sont mis en scène pour la clé de l'histoire objective telle qu'elle nous arrive aujourd'hui. Et je pensais, bon, je suis pas là non plus pour faire que de la, pour avoir que l'esprit de contradiction ou faire le, pour avoir l'air un peu chafouin, mais
vous aimez la dialectique,
mais je me disais que je crois que Carla Michel m'a contacté pour discuter de l'émission, j'y ai pensé tout à coup, je me suis dit c'est drôle comme ça résonne aujourd'hui, puisque certains romans qui ont du succès, qui sont pris dans l'industrie culturelle, dirait Adorno, et qui ont des titres comme « Le mage du Kremlin », Les ingénieurs du chaos, le temps des prédateurs. Hein. J'ai l'impression que c'est exactement ce que Adorno est en train de critiquer là. C'est-à-dire, ça nous donne l'idée que on va comprendre l'histoire horrible et ses ressorts dans ce qui nous arrive aujourd'hui, en finalement en cautionnant l'idée que se font ceux qui pensent que le destin du monde est entre leurs mains. J'ai pas besoin de les citer. Hein,
Même si le livre est parfois bien plus subtil que cela, voilà, cette manière de titrer va dans le sens de ce que dit Adorno, que j'ai cité. Quand on est obsédé par une espèce d'engagement net, en fait, on crée une œuvre interchangeable. Tous ces titres se ressemblent.
Il y a aussi autre chose qui n'est pas dans ce passage où il dit ça serait plus une critique pour l'autre texte qu'on a entendu tout à l'heure, qu'on a vu tout à l'heure de Sartre sur le fait d'être embarqué. Hein, je ne suis pas du côté des oppresseurs, je suis du côté des opprimés. Ce qui gêne aussi beaucoup Adorno, c'est la façon dont, à un moment donné, on se donne le droit presque de prendre le langage des opprimés dans sa manière d'écrire, quoi. Voilà. Donc il le critique également. Et pour terminer sur ce texte-là, je crois que l'allusion à Beckett à la fin,
elle est majeure
parce que ce qui veut dire, alors voilà, justement, Beckett, c'est pas immédiatement lisible,
c'est difficile.
Alors, on peut penser En attendant Godot ou à Fin de partie sur lequel il a écrit un texte, mais si on prend les dernières pièces de Beckett, c'est encore plus net. Hein. C'est corps à moitié crevé, comme le dit Adorno, qui sont où vraiment là, le théâtre sert à quelque chose, quoi. La scène chez Beckett, hein, ils tournent comme s'ils étaient enfermés, quoi. Sauf qu'on peut pas sortir, mais c'est même pas qu'on doit sortir parce qu'on trouve pas la sortie, c'est qu'il n'y a pas de dehors, quoi. C'est ça qui fait que les personnages de Beckett ont l'air de se réduire. Et donc ça atteint ce qui fait voler complètement mon éclat, c'est Beckett, c'est cette sorte de principe d'individuation sur lequel Sartre croit pouvoir encore se reposer. Au fond, il y a chez Sartre une certaine conception, si je prends le point de vue d'Adorno, hein, de l'homme, du sujet et de l'action avec une sorte de transitivité, comme ça, que toute la modernité, ou la modernité dans sa crise au XXe siècle, a rendu de plus en plus problématique. C'est d'ailleurs ça qui est en arrière-plan de la réflexion d'Adorno sur qu'est-ce que c'est que continuer à écrire après Auschwitz. Voilà. L'individu et dans toute l'histoire du théâtre d'ailleurs, jusqu'à ce qu'on a appelé le théâtre post-dramatique, hein, cette question du sujet sur lequel on peut pas faire fond, elle est quand même centrale.
C'est tellement beau ce que vous dites là que je vais enchaîner par Beckett directement et ensuite Michel Cohen-Alimi à son tour nous donnera sa réflexion sur Adorno face à ce problème de l'engagement. Écoutez cette pièce, cette mise en scène de En attendant Godot. Il s'agit de l'acte premier de cette pièce de Beckett, mise en scène de Roger Blin en 1979.
Ne faisons rien. C'est plus prudent.
Attendons voir ce qu'il va nous dire.
Qui ?
Godot ?
Voilà.
Attendons d'être fixé d'abord.
D'un autre côté, on ferait peut-être mieux de battre le fer avant qu'il soit glacé.
C'est curieux de savoir ce qu'il va nous dire. Ça ne nous engage à rien.
Et qu'est-ce qu'on lui a demandé au juste ?
Tu n'étais pas là ?
Je n'ai pas fait attention.
Eh bien, rien de bien précis.
Une sorte de prière.
Voilà.
Une vague supplique.
Si tu veux.
Et qu'a-t-il répondu ?
Qu'il verrait.
Qu'il ne pouvait rien promettre.
Il lui fallait réfléchir.
À tête reposée.
Consulter sa famille.
Ses amis.
Ses agents.
Ses correspondants.
Ses registres.
Son compte en banque.
Avant de se prononcer.
C'est normal.
N'est-ce pas ?
Il me semble.
À moi aussi.
Et nous ?
Plaît-il ?
Je dis, et nous ?
Je ne comprends pas.
Quel est notre rôle là-dedans ?
Tout est là, n'est-ce pas, Gilles Mouteau ? Dans ce silence, dans cette description d'un Godot dont on ne sait pas ce qu'il fabrique, mais après, il y a un silence, et nous ? Et c'est ça, l'œuvre qui nous transforme ?
Oui, oui, mais je pense en plus que dans l'attendant Godot, on attend. Il y a aussi tout ce motif qui avait été très, très, très bien analysé, je trouve, par Tiphaine Samoyo dans son livre La montre cassée. En fait, on n'a plus de quoi mesurer le temps aussi chez Beckett. Et ça passe par des choses très, très simples, quoi, justement, dans ce qu'on a entendu là dans les dialogues. Il y avait des mises en scène même qui montraient l'arbre avec son ombre portée sur la scène, qui était comme une sorte de montre sans aiguille, quoi. Voilà. Et donc, là, on voit bien ce qu'on disait tout à l'heure, ce côté dialectique, c'est-à-dire ces sujets-là, ils sont perdus parce que l'objectivité elle-même perd ses repères. Voilà, il y a plus de temps par rapport auquel on puisse se repérer, qu'on puisse vraiment mesurer. Et c'est ça qui crée une forme d'angoisse, quoi, et qui dit quelque chose du temps dans lequel on est, précisément.
Michel Cohen-Alimi, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est en effet Beckett qui est un peu le modèle adornien d'un art angoissant et critique plus fort que ce qu'on appelle communément un art engagé, qui a un petit côté interchangeable, qui montre que le concept d'engagement est insuffisant ? Est-ce que c'est vraiment Beckett qui l'incarne le mieux pour Adorno ?
Je pense qu'il y a deux grandes complicités pour Adorno. Il y a Beckett, qui l'a rencontré au début des années 50, qui l'a tenté de faire mettre en scène par le Berlin ensemble à Berlin. Donc il y a une vraie rencontre. Et dans un très beau livre de André Bernold, qui s'appelle Amitié avec Beckett, Bernold témoigne de ce que Beckett lui aurait dit, que enfin, avec Adorno, il avait un lecteur qui l'homologuait pas au théâtre de l'absurde et qui prenait acte de l'inscription de la Seconde Guerre mondiale dans son œuvre. Et autre chose dont témoigne André Bernold dans ce livre magnifique, il dit que Beckett lui a dit, on va pas mettre en doute sa parole, que Beckett lui a dit que Celan était allé plus loin que lui.
Paul Celan.
Oui. Donc la deuxième
un mot, s'il vous plaît, pour Paul Celan, tout le monde ne connaît pas par cœur.
J'allais en parler aussi.
Dites-nous juste.
Paul Celan, né à Tchernovitz, poète, alors roumain, qui prend la nationalité française et qui va écrire toute son œuvre poétique en allemand. Et Paul Celan est donc quelqu'un qui a inscrit la catastrophe, l'horreur de la Seconde Guerre mondiale dans la langue allemande.
Alors,
une langue contre la langue.
Oui.
Et quand Adorno définit la langue philosophique, qu'est-ce que c'est que la langue philosophique ? On entend en résonance et Beckett et Celan, on entend une langue contre la langue, marqué du sceau de sa propre impossibilité. Donc je pense que les deux grandes rencontres, c'est Celan et Beckett. Alors Celan, on ne va pas rentrer là, mais c'est très compliqué parce que c'est un peu un ratage.
Mais il y a quand même
une admiration réciproque. Oui. Mais il a quand même écrit sur Sprachgitter, sur grille de parole dans la théorie esthétique. Donc il avait le projet d'écrire un livre sur Celan. Et je pense que pour ce qui est de Beckett, oui, en effet, je pense que c'est vraiment d'abord, il dédie la théorie esthétique, son grand livre à Beckett. Et je pense que il faut pas oublier que le texte engagement là dont on parle, il est dans une composition générale où il est entre un texte sur le réalisme manqué par Krakauer et un musicien expérimental. Et là, on a Proust, on a Joyce. Bon, donc un rapport à la langue
Et un rapport à la souffrance et à la destructivité.
Alors, la destructivité, la souffrance inscrite dans l'histoire.
Je vous remercie de tout ce que vous avez dit parce que. Effectivement, après la guerre, Adorno a dit qu'on ne pourra plus écrire de poèmes après Auschwitz, mais il est revenu sur cette phrase, contrairement à ce que disent beaucoup de gens qui le citent. Il a dit en 66, dans Dialectique négative et ailleurs, que cette phrase était un peu rapide, mais on peut le comprendre dans l'après-guerre. En fait, il voulait dire qu'aucune culture, aucun art ne sera plus possible, qu'il n'aura mis en son cœur ce problème de la souffrance et de la destructivité.
Là aussi, ça touche à la langue, donc avec ce à quoi on pense, on écrit. Sartre, il se repose aussi sur une sorte de distinction assez générale entre, il y a les arts comme la poésie, qui se retirent du langage instrument, et puis il y a la prose, et la prose, on y va, quoi. On est aux côtés des opprimés. Adorno, d'ailleurs, même la phrase sur laquelle il revient, il fait une sorte de demi-palinodie. Et au fond, il disait écrire un poème après Auschwitz, c'est barbare, cette fameuse phrase. Et cette phrase atteint même la phrase qui prétend dire pourquoi il est devenu impossible d'écrire des poèmes après Auschwitz. C'est-à-dire, le théoricien s'en sort pas mieux.
En tout cas, il est revenu là-dessus.
Et puis surtout, dans un texte qui est une intervention, pour le coup, donc de l'ordre un peu de l'engagement, comme éduqué après Auschwitz, j'ai retrouvé ça dans les modèles critiques. Il dit que c'était des notes qu'il avait pour une intervention à la radio et qu'il s'est refusé à le rédiger après. Il s'est refusé à le rédiger vraiment pour la publication parce que, au fond, le soin que j'allais mettre à trouver, à faire un texte bien, bien ficelé, c'était déjà une insulte aux victimes. C'était une manière de transformer leur souffrance à l'état d'un matériau mis à disposition.
Vous avez remarqué que l'usage d'Auschwitz permanent. En ce moment, je trouve que c'est assez adornien de noter que c'est une manière de l'enfouir encore. Oui. Et aujourd'hui, on commet aussi des horreurs au nom, soi-disant, d'une mémoire.
Oui.
Je pense à Gaza.
Oui, moi aussi, j'y pense. Parce que c'est aussi ça.
Et Adorno aurait des choses à dire sur ça.
Oui, je pense que là, on va pas le faire parler sa place, mais c'est sûr que ça peut rejoindre d'ailleurs au fond la critique qu'il fait à Sartre, quoi. C'est-à-dire, il y a une manière à un moment de dire je suis du côté des victimes ou je suis du côté de la mémoire des victimes, et on peut en faire de très mauvais usages. J'essaie de le dire comme ça. Un peu quand même ému. Mais boucler par rapport à Celan, parce que ça permet aussi de reboucler sur le premier texte de Sartre qu'on a entendu, où il dit on a été trop dans l'art pour l'art, maintenant il faut. C'était la fin du XIXe siècle. Et ça, on voit bien que ce à quoi il n'est pas attentif, c'est l'historicité des formes, Sartre, finalement. Parce que dans les pages auxquelles tu faisais allusion sur Celan dans la théorie esthétique, Michel, pardon, excusez-moi,
c'est vrai qu'on a...
il le dit, la radicalité de Celan, c'est qu'il cherche à exprimer le silence par le traitement qu'il fait du langage. Un langage des pierres et des étoiles, un langage quasi minéral. Et donc, l'hermétisme de Celan, justement, il change de fonction. C'est pas juste pour ou contre l'hermétisme. C'est plus l'hermétisme de l'art pour l'art ou du joli bibelot, aboli bibelot d'unité sonore, de la fin du 19e ou du 20e siècle. C'est la seule manière, justement, d'inscrire dans le langage ce que ce langage même ne peut pas dire et qu'il faut dire quand même. C'est la phrase de Sandy. Impossible d'écrire un poème après Auschwitz, si ce n'est à cause d'Auschwitz.
Oui, l'histoire est dans les mots.
Voilà, l'histoire est dans les mots.
Alors, à propos de Sartre, soyons tout à fait justes, si nous le pouvons. Adorno, dans les années qui ont suivi ce texte Engagement, et notamment dans Éduquer après Auschwitz, qui est un texte de 66, exactement comme Dialectique négative, revient et fait une allusion très sympathique pour Sartre. Il y a des choses de Sartre qu'il apprécie beaucoup. Je lis cet extrait. « J'ai fait un jour une expérience effrayante, écrit Adorno, au cours d'un voyage au lac de Constance, je lisais un journal du pays de Bade, où l'on rendait compte de « Mort sans sépulture » de Sartre, une pièce où étaient représentées les choses les plus terrifiantes. Elle avait visiblement mis le critique mal à l'aise, mais il n'expliquait pas ce malaise par l'horreur de la chose, qui est l'horreur de notre monde. » Il s'y était pris de telle façon que face à une attitude comme celle de Sartre qui présentait cette horreur, nous conservions cependant, je dirais presque, le sens de quelque chose de supérieur, de sorte que nous ne puissions reconnaître l'absurdité de cette horreur. Bref, à l'aide d'un noble bavardage existentiel, le critique voulait éviter de se confronter à l'horreur. » Michel Cohen-Halimi, Sartre, parfois, c'est se confronter à l'horreur. Et c'est le critique qui prend la flèche. Ce n'est pas Sartre. Sartre sait parfois aussi nous présenter l'horreur toute nue et angoissante.
Ah oui, ça absolument. Je crois que là, il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Et que je crois que là, Adorno reconnaît, mais il reconnaissait aussi, mais sur un mode un peu plus mineur, la loyauté, la grande probité de Sartre, sa capacité d'autocritique, sa capacité de retour sur ses propres actions passées ou pas. Donc là, il y a chez Sartre une capacité de faire face, de ne pas céder à la logique du déni, ni au recouvrement d'une situation par un discours de bon aloi stéréotypique, par des poncifs existentiels. Donc ça, je crois qu'il y a une sorte de Sartre contre Sartre. Il y a un Sartre qui a une telle probité, une telle honnêteté politique et intellectuelle, qu'il y a des moments où il sort parfois de ses propres tropismes philosophiques, la décision, le choix en toute situation, etc. Et là, je crois que prendre acte de cette radicalité sartrienne, je pense que ce faisant, Adorno, quand même, lui emboîte le pas aussi, parce que si quelqu'un a pris acte avec une radicalité sans pareil de la situation de l'Allemagne, de la situation mondiale, des États-Unis, enfin, c'est quand même Adorno, parce qu'en effet, comme le disait Gilles tout à l'heure, engager une réflexion sur le potentiel fasciste aux États-Unis, ça veut dire qu'une victoire militaire, c'est pas encore une victoire idéologique, et que le travail commence.
Je voudrais ajouter quelque chose, enfin vous interroger sur l'attitude d'Adorno qui sait dans des œuvres dire ça j'aime bien et ça j'aime moins. Il le fait même avec Brecht, parce que Brecht, la distanciation qui nous fait réfléchir, qui crée du silence et du trouble, il adore. Mais il y a aussi un Brecht un peu lutte de classe à la Petite Semaine. Il y a les bons et les méchants, l'œuvre très engagée. Il trouve pas ça bien et il envoie même des piques à propos de Arturo Huy, qui est souvent couvert d'éloges, il trouve que c'est trop simple. De même, Chaplin, qu'il adore, il adore le dictateur, mais il dit que la scène où, dans le ghetto, la femme juive avec une poêle à frire tape sur les SA et les assomme, c'est même pas drôle, c'est nul, ça prend pas, ça va pas, quoi, par rapport à l'horreur. Donc c'est ça qui est intéressant chez Adorno. Il prend les œuvres, il travaille dedans, tout n'est pas bon, et puis il y a des choses formidables.
Oui, mais c'est ça, il faut quand même dissocier les intentions des modalités de la réalisation de ces intentions. Et je pense que d'où l'importance de l'art. C'est-à-dire le texte sur Sartre, il a quand même comme sous-titre ou l'autonomie de l'art. Donc la question, c'est vraiment que la réification, l'histoire, l'horreur ont pénétré non seulement les sujets et les objets, mais le langage, donc notre rapport à eux. Donc il faut traiter cette question-là. Et selon lui, eh bien, à certains moments, Brecht le traite mieux que Sartre, et c'est assez frappant dans le texte Engagement, parce qu'on voit monter à la surface du texte un Brecht qui, lui, en effet, incite à la réflexion, comme Sartre, se défie de toute spontanéité, comme Sartre, mais en réalité, ne cède sur aucun moment de ses pièces à l'empathie.
Pas quand même, Arturo Huy, voilà. Il le critique, Adorno, dans son texte Engagement.
Les bandes corrompues de brigands en lieu et place des industriels nazis, en effet.
Il trouve qu'il y a des facilités parfois.
Oui, il y a des facilités, en effet. Mais malgré tout, il n'y a pas d'identification. Il y a jamais on ne s'identifie, on est au contraire mis à distance, c'est tout le ressort du travail de Brecht sur la distanciation, et il n'y a pas d'empathie, on ne recourt pas à l'émotion. Donc ça, c'est quand même des points de distinction importants. Après, ce que je trouve assez troublant dans la caricature par Brecht, des TUI, de tous ces intellectuels qui se contentent de penser sans agir, il leur reproche de ne pas avoir un eingreifendes Denken, une pensée intervenante. Et je trouve assez frappant que Adorno, au lieu de pensée intervenante, substitue, presque en réponse mais lointaine à Brecht, Eingriff. Les interventions dans modèle critique, c'est Eingriff.
Ou allemand, c'est Eingriff.
Donc en fait, il ne s'agit pas d'agir, il s'agit au cœur même de la pensée de transformer les concepts en puissance d'action. Mais donc de l'intérieur de la théorie, il faut agir.
La théorie est une pratique.
Oui, absolument, c'est une forme de pratique.
Une fois n'est pas coutume, nous laisserons presque le dernier mot à Adorno. Voici un court extrait de son texte Résignation de 1968. C'est même la fin du texte où il redit tout ce que vous venez de dire, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi. Écoutez.
Le penseur critique sans compromis, qui ne met pas une étiquette à sa conscience et ne se laisse pas terroriser à agir, est en vérité celui qui ne cède pas. La pensée n'est pas la reproduction intellectuelle de ce qui existe de toute façon. Tant qu'elle ne s'interrompt pas, elle retient solidement la possibilité. Ce qu'elle a d'inassouvissable, la réticence à se payer de mots, s'interdit la sotte sagesse de la résignation. En elle, le facteur d'utopie est d'autant plus fort qu'elle s'objective moins en utopie, également une forme de régression, et sabote par là la possibilité de sa réalisation. Une pensée ouverte fait signe vers ce qui la dépasse. Elle-même une attitude, une figure de la praxis, elle est plus proche de celle qui transforme qu'elle ne l'est d'une pensée qui obéit au nom de la praxis.
Pas d'engagement au sens de Sartre, mais pas de résignation. La résistance, la critique, je vous laisse commenter cela, Gilles Moutot, même s'il nous reste seulement quelques minutes.
Oui, ça va être facile. Non, mais ça, je crois que ça reprend des choses qu'on a dites jusqu'à maintenant.
Il y a le mot utopie quand même.
Voilà, il y a le mot d'utopie, puisque en fait, il y a cette idée, je crois, chez Adorno, qu'une théorie qui devrait suivre la pratique au nom d'un objectif de transformation immédiate, c'est aussi mettre sous boisseau le travail de la pensée, quoi. C'est au fond obéir à une mauvaise théorie, comme si on avait une théorie qui savait d'entrée de jeu quelles allaient être les conséquences de l'action et quelle figure du futur ça allait dessiner, quoi. Donc ce qu'on appelle ici une praxis qui devrait se réaliser immédiatement, elle manque de réflexion justement sur la manière dont il le dit aussi dans d'autres textes à la même époque. Et après tout, on a parlé de la personnalité autoritaire tout à l'heure. La question, c'est comment on a une pratique qui va laisser les individus ne pas devenir à nouveau des rouages, oui, d'une sorte de machine. Et pour revenir sur la question de l'utopie, oui, effectivement, c'est-à-dire que résister à la domination à partir de la souffrance des sujets, c'est déjà une manière de dire ce qui est insupportable dans cette société et qu'il ne faut absolument pas reconduire, sans pour autant dépeindre de manière positive ce que serait une société future. Je terminerai juste sur cette idée d'utopie, peut-être. Il y a un thème qu'il reprend de temps en temps et qu'on trouve chez Ernst Bloch aussi, qui est un thème qu'on trouve dans la pensée juive, qui est, et dans la Kabbale, où le monde, d'après la venue du Messie, serait exactement le même que celui d'aujourd'hui, mais un tout petit peu différent. Et en fait, c'est une tâche extraordinairement difficile. Si on dit « on casse tout », on fait tout à fait autre chose. C'est beaucoup plus sommaire que de dire jusqu'où il faudrait avoir compris les rouages du monde dans lequel on est pour le décaler et entrer dans un monde qui serait libéré de la domination. C'est un effort de pensée, c'est un effort théorique.
Magnifique. Vous avez été grandiose ce matin. Merci. Gilles Couteau, merci Michel Cohen-Halimi pour vos analyses sur Adorno. Les références de vos travaux sont sur notre site. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms. Cette semaine, il s'intéresse aux interdits. Pourquoi ne doit-on pas se contredire? Et notamment, un des enjeux pour lui cette semaine, voici le pourquoi du comment.
Pourquoi y a-t-il des interdits? Nous savons qu'il y a des obligations fondamentales à respecter entre les êtres humains, qu'il y a des actes qu'il ne faut pas commettre, et nous savons qu'il y a ce qu'on appelle des interdits. Mais nous sommes parfois irrités qu'on ait besoin de nous le rappeler, qu'on ait besoin de nous dire les interdits, que les interdits passent par des énoncés, par des impératifs, par de la loi, par des commandements moraux, par exemple les 10 commandements qui sont présents dans l'Ancien Testament, dans la Bible. Il n'y a aucune culture qui n'énonce pas des interdits, qui ne les rappellent. Oui, il y a des sens interdits dans nos rues, il y a des rappels un peu partout, il y a des règles, il y a des limites, et nous sommes parfois saturés de ce langage qui fait que l'interdit nous est en effet toujours dit, s'interpose entre nous par du langage. Pourquoi est-ce que les obligations, et surtout les obligations négatives, ce que l'on ne doit pas faire, pourquoi passe-t-il par le langage? Il y a des philosophes qui ont réfléchi évidemment là-dessus, peut-être d'abord pour dire que l'interdit révèle des obligations fondamentales et que le fait de les dire n'est qu'une révélation supplémentaire, une sorte de confirmation des devoirs profonds des êtres humains. Il y a d'autres philosophes qui ont comparé l'interdit à une règle logique, au principe de non-contradiction. Il faut dire les interdits parce que c'est justement les interdits énoncent les conditions logiques de la vie humaine. Ainsi, pour certains philosophes du langage, l'interdit de l'inceste, le tabou de l'inceste, serait d'abord une condition logique de la vie humaine liée aux règles de parenté, comme l'a montré Claude Lévi-Strauss. Il y a la parenté elle-même est définie par des règles qui font que elle repose sur des échanges pour les rapports sexuels et que l'inceste serait avant tout un interdit logique avant d'être un interdit moral. L'inceste brouillerait les cartes de la construction logique du monde par les relations familiales avant d'être un interdit moral et une violence ou une violation sexuelle et physique et une destruction des relations humaines. Il est bien sûr possible de montrer qu'il y a du symbolique, qu'il y a de l'interdit logique, de la construction de notre identité dépend du langage et de certains interdits symboliques. Mais le rapport de l'interdit au langage ne se résume pas à cette construction logique de l'humanité. Ce n'est pas non plus seulement la révélation d'une obligation innée et éternelle. L'interdit se dit parce que d'abord, il est une exclamation devant la rupture. Oui, le sentiment de l'interdit, il sort de notre expression devant un crime qui nous révolte et par exemple, justement, un inceste ou un fratricide ou une guerre. Oui, nous disons, cela n'est pas possible. Tu n'as pas le droit. C'est d'abord une expression qui surgit de l'âme humaine. C'est d'abord un langage qui dit qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas agir de telle ou telle façon et cela sort dans du langage. L'interdit est donc la formalisation d'un dire très profond, un dire qui n'est pas anodin, un dire qui a un pouvoir, à tel point d'ailleurs que, bien entendu, l'un des interdits fondamentaux sur lesquels il faudra réfléchir aussi, l'une des choses qu'on ne peut pas faire et donc dire de n'importe quelle façon passe par le langage lui-même. Oui, il y a des mots eux-mêmes qu'il faut peut-être interdire, des mots ou des expressions ou des façons de dire qu'il faut interdire. Le langage n'est donc ni une structure logique, ni un décor pour des fondements qui pourraient s'en passer. Le langage est un des lieux de la morale et donc de la vie des êtres humains.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast sur l'application Radio France et sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Marie-Claire Oumabadi. Elle a été préparée en particulier par Carla Michel et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Anna Fulpin, Nassim El Kabli, Corinne Amar et Victoire Mellet. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité.